Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, évidemment un retour sur les élections européennes vues depuis la Bretagne. Interview avec Alternatiba ANV COP 21 avant une étape des cyclistes du Tour Alternatiba en région rennaise. Il y aura de la musique dont une nouveauté, l'épisode 2 de la série réalisée par Corentin, volontaire en service civique sur Rennes de la Rouge. Et puis deux recommandations plutôt politiques, un rassemblement et un café débat. Bienvenue dans l'Arène. Et c'est parti, on lance l'émission d'information locale comme chaque jour avec une info repérée dans la presse locale. Aujourd'hui, évidemment, il s'agit d'un retour sur les élections européennes vues depuis la Bretagne, avec, il faut le dire, une sacrée gueule de bois qui nous est tombée dessus ce lundi 10 juin. En Bretagne, il faut commencer par souligner le taux d'abstention de presque 43%. C'est moins qu'à l'échelle nationale, mais ça reste beaucoup. Et le deuxième parti de France, après ça, eh bien, c'est le Rassemblement National, emmené par Jordan Bardella avec 36% des suffrages. Vient ensuite Raphaël Glucksmann avec la liste PS Place Publique et donc 18% des votes, et Valérie Ayé pour la majorité présidentielle avec 17,48% des suffrages. Voilà pour le trio arrivé en tête dans la région. On s'arrête quand même sur le cas rennais. Dans un communiqué de presse, la maire socialiste de Rennes se félicite de résultats nettement différents à l'échelle de la ville de Rennes. Je cite « Notre ville reste atypique. L'extrême droite est contenue dans les urnes avec un score inférieur à 10%, et c'est la liste PS Place Publique qui arrive en tête. Résultat de ces élections, 3 eurodéputés vont rejoindre le Parlement européen. Gilles Pennel pour le Rassemblement National, Isabelle Le Callennec des Républicains qui va devoir laisser sa casquette de maire de Vitré, et Marie-Pierre Vedrenne avec l'étiquette Renaissance qui était déjà élue sur le mandat précédent. Cette dernière qui reconnaît par ailleurs une défaite. Quand on additionne tous les scores de l'extrême droite, c'est une défaite pour l'entièreté du champ républicain, ce sont ces mots. Alors après la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée dimanche soir par le président Emmanuel Macron, c'est désormais une nouvelle campagne qui s'ouvre et plusieurs députés ont déjà annoncé qu'ils se représentaient en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. Le président de région Loïc Chesnais-Girard défendra, lui, je cite, un projet porteur d'espoir, cohérent et sincère pour bâtir un avenir commun, démocratique, pro-européen et écologique. Des mots qui en tout cas n'ont pas semblé suffire vu la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Moi je vous le dis honnêtement, je ne couvrirai pas les élections législatives à venir parce que c'est trop pour une seule journaliste de recevoir les nombreux candidats qui vont se présenter, et surtout sur une période aussi courte. Avec, vous le savez, des engagements à prendre sur l'équité des temps de parole. Il est par contre probable que je réalise des décryptages en compagnie d'universitaires et que je relaie aussi les inquiétudes d'acteurs locaux face, il faut le dire, à la possible arrivée au gouvernement d'un parti qui est tout sauf comme les autres d'ici quelques semaines. Allez, après cette info, on passe à l'interview du jour. Oumaïma Elisbiani, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes membre de l'association Alternatiba ANV COP 21 pour la ville de Rennes qui va accueillir une étape du tour de l'association au niveau national. Le rendez-vous est donné dans deux fermes en région rennaise mardi 11 et mercredi 12 juin. Avant d'arriver à ce programme chez Alternatiba, en tout cas pour Rennes, vous êtes connu pour votre village des possibles qui est organisé au mois de septembre, aussi pour vos actions non violentes pour dénoncer ici la pub, là défendre le train de nuit. Est-ce que j'oublie des choses importantes parmi vos combats ?
On a aussi un gros combat sur l'artificialisation, et ça sera notamment évoqué pendant la journée du mercredi avec la formation à l'action non violente et ensuite la visite du chantier de Cesson à Via Silva. Ça c'est aussi une de nos grosses thématiques qui est vachement importante sur la Bretagne, qui artificialise énormément. Du coup, nous, on est vachement mobilisés là-dessus. Mais sinon, ouais, on a aussi sur l'alimentation, l'agriculture. On est vraiment le reflet un peu des préoccupations des gens qui sont dans l'association.
Vous êtes combien aujourd'hui chez Alternatiba? Alternatiba à Rennes. On sait que la région rennaise est riche en associations mobilisées sur la question climatique. Est-ce qu'il y a eu une évolution d'ailleurs des équipes depuis le lancement? Alors c'était en 2017 la formalisation en tant qu'association.
Ouais, c'est ça. On évolue assez, ça dépend en fait aussi des périodes de l'année. On est souvent une trentaine quand même qui sont là régulièrement aux différentes actions, aux réunions de préparation et tout. Mais ça dépend aussi à la rentrée, on sera forcément plus. Et là, au vu des échéances électorales, ça aussi, ça crée des fois des mouvements de gens qui rejoignent des associations à cause de leur stress, des résultats, etc. Donc voilà. Mais après, on essaye justement aussi de travailler avec toutes les autres associations, notamment avec le Village des Possibles, mais aussi sur les mobilisations, les campagnes de plaidoyer. On essaye de justement aller avec toutes les autres associations qui font aussi des travaux très chouettes et vachement intéressants.
Et est-ce qu'il y a des profils qui reviennent parmi les membres d'Alternatiba, étudiants ou qui sont investis aussi dans leur métier sur la question climatique, où il y a plusieurs publics qui se mélangent?
Ouais, il y a plusieurs publics qui se mélangent. Après, ça dépend aussi des modalités d'action. Souvent, les personnes plus jeunes préfèrent la partie action de désobéissance civile. Et plus on avance dans l'âge, plus on va vers le plaidoyer et les actions plus de sensibilisation. Du coup, ça dépend. Et c'est jamais toujours la même chose pour tout le monde. Mais ouais, on voit souvent différents publics. Mais beaucoup de personnes qui travaillent dans l'environnement, dans les administrations, qui viennent se mobiliser ensuite sur leur temps bénévole.
On va en glisser un mot ici, puisque vous venez de l'évoquer, le contexte électoral. On se parle au lendemain des résultats des élections européennes du dimanche 9 juin en France. On doit en dire un mot, parce qu'on vous imagine sans doute un peu sonné. Il faut dire que le combat pour le climat est clairement pas sorti gagnant de la journée d'hier.
Non, clairement pas. C'est pas l'écologie qui a gagné, c'est principalement le fascisme. Et du coup, oui, on essaye de se remettre un peu toutes et tous de ça. Après, c'est ce qui est justement intéressant d'être en collectif aussi. C'est plus facile d'encaisser les coups quand on sait qu'on a tout un groupe avec soi et qu'on peut aussi aller un peu se réfugier dans le collectif et avec les collègues. Donc ça, c'est vachement agréable. En tout cas, ça fait du bien. Mais du coup, oui, on va sûrement adapter aussi un peu la programmation de l'étape du tour, que ce soit en lien avec l'équipe nationale qui, du coup, fait le trajet, mais aussi avec notre message. Après, on pense quand même que c'est quand même important de le maintenir. C'est important de maintenir le discours sur l'écologie et d'aller vers des choses concrètes aussi. Et nous, ce qu'on propose justement avec cette étape, c'est aussi parler de choses concrètes et d'une écologie qui est là et qui est populaire et qui est importante et qui a le mérite, qui doit exister malgré le contexte actuel.
On rappelle que pendant la campagne des élections européennes, vous avez relayé en ligne sur vos réseaux sociaux le décryptage mené par le réseau Action Climat, qui s'était penché sur le programme des principales listes pour voir ce qui se cachait derrière les promesses de campagne. Et donc, côté résultat, sur la journée d'hier, le camp des écologistes a remporté seulement 5,5% des voix et perd donc 7 députés français au Parlement européen. C'est en tout cas pour vraiment le parti européen Écologie, Les Verts, même si d'autres listes portaient des enjeux climatiques. Alternatiba, c'est donc cette association à Rennes, mais c'est surtout un mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale qu'on retrouve partout en France. Il y a du lien en dehors de ce tour là qu'on va annoncer entre les différents comités locaux, il y en a 130 je crois.
Oui, ouais, totalement. Carrément, on essaye justement de... Quand c'est des enjeux qui mobilisent sur plusieurs territoires, on essaye de se partager les compétences, de se faire des retours d'expérience sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, pour justement essayer de bénéficier du travail qui a déjà été fait ailleurs et pas réinventer la roue à chaque fois. Et là, il y a de nouveaux groupes qui se sont créés en Bretagne assez récemment, notamment à Concarneau et à Saint-Brieuc. Et donc là, le tour, justement, c'est aussi un moment pour pouvoir relayer les actions des uns et des autres et aussi de se mobiliser. Là, la plupart des étapes se font autour de l'alimentation en Bretagne, la thématique, et du coup, nous, on fait la continuité et on essaye de proposer à chaque fois quelque chose d'un peu différent et en même temps qui complète un peu le discours des étapes précédentes. Et on espère carrément pouvoir travailler avec les autres groupes locaux bretons notamment dans l'année à venir.
Alors, donc, ce tour Alternatiba, il existe depuis plusieurs années, depuis bientôt 10 ans. L'idée, c'est la suivante, c'est de parcourir la France à vélo. Là, le tour est parti de Nantes le 2 juin et ira jusqu'à Marseille à l'automne avec 5500 kilomètres à parcourir à la rencontre de projets alternatifs sur le territoire. Ça fait 18 semaines sur la route en tout. Comment dire, l'équipage, il varie selon les étapes ou ce sont les mêmes personnes qui font tout ce tour de France là ?
Alors, c'est des équipes qui font des créneaux de 2 à 3 semaines et à chaque fois, les personnes rejoignent sur une étape pour ensuite reprendre le flambeau et faire les 2 semaines d'après. Il n'y a personne qui fera les 4 mois, ce serait un peu trop dur physiquement et sûrement mentalement.
Et il y a à peu près combien de personnes à chaque fois sur chaque étape sur
la route ?
Une quinzaine de personnes à peu près. Les thématiques centrales de ce tour Alternatiba, ce sont l'agriculture et l'alimentation. Et la première étape rennaise, eh bien, ça se passera à la ferme de Quincé, dans le quartier Beauregard. Demain, mardi 11 juin, à partir de 17h. Alors, il faut expliquer que les cyclistes, ils seront accueillis, mais avec pas mal d'animation autour.
Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir tester justement aussi la fameuse célèbre quadruplette du Tour Alternatiba. Donc, en parallèle, il y aura des animations à la ferme de Quincé à partir de 17h autour de l'alimentation. Après, c'est très spécifique à la Bretagne, la thématique alimentation. Il y a d'autres villes qui vont faire des thématiques assez différentes. Tout dépend vraiment du contexte local et des étapes bretonnes aussi, où c'était contre des projets d'artificialisation, notamment l'ouverture d'un super-U sur une zone humide au centre Bretagne. Et ensuite, en parallèle, du coup, à Rennes, le mardi, à 17h30, c'est animation sur la place de la mairie pour ensuite s'élancer en groupe festif jusqu'à la ferme de Quincé, où il y aura des animations, un concert et une animation autour de la sécurité sociale de l'alimentation.
Vous ne serez pas seul, il y aura des partenaires associatifs bien connus dans la région qui seront à vos côtés, justement pour animer ces ateliers sur la ferme de Quincé ?
Ouais, totalement. Bon, on a sollicité toutes les associations qu'on connaissait autour de l'alimentation et de l'agriculture. Et il y aura la Confédération Paysanne. On a aussi bénéficié de dons de la part du réseau de ravitaillement des luttes. Mais il y aura aussi la Nature en Ville. Il y aura le collectif de soutien aux victimes des pesticides. Donc, et d'autres associations encore. Donc on a essayé justement de solliciter les associations pour qu'elles puissent utiliser ce temps aussi pour mettre en avant leur campagne et compléter aussi notre discours pour qu'on arrive à une proposition cohérente.
Également sur place donc pour le mardi 11 juin à partir de 17h et jusqu'à 22h, de la musique avec la fanfare des Azou et Chamad Naroua, ça c'est pour la musique, et puis il y aura de quoi manger avec de la restauration végétarienne, je crois.
Ouais, c'est ça, on essaie justement de proposer aussi de la restauration sur place, et nous ça permet aussi de financer nos futures campagnes, parce que c'est comme ça aussi qu'on récolte de l'argent, et comme on vit uniquement de dons, donc c'est aussi l'occasion pour nous de renflouer un peu les caisses, et aussi de proposer un moment festif et convivial.
Le lendemain, mercredi 12 juin, le Tour Alternatiba prendra la direction d'un lieu qui est peut-être moins connu que la ferme de Quincé. C'est la ferme de la Grande Frinière à Cesson-Sévigné, une ferme qui est en fait en lien avec le collectif qui est opposé à l'artificialisation du quartier Via Silva. On les avait déjà rencontrés en reportage. On est tout près du terminus de métro de la ligne B, qui devrait bientôt reprendre du service d'ailleurs. Vous serez là-bas pour un volet plutôt formation le mercredi.
Ouais, tout à fait. Dans l'après-midi, il y aura une formation à l'action non violente qui sera assurée par des membres du réseau national qui, du coup, font le trajet en vélo. Et ensuite, ce sera une visite de quartier Via Silva pour montrer les futurs développements du projet et comment lutter pour aussi potentiellement entamer des démarches pour pouvoir mobiliser les gens contre ce projet. On a choisi ce lieu aussi parce que c'est un lieu qui nous tient à cœur et qui mène un projet vraiment intéressant, que ce soit en termes de lutte contre l'artificialisation au niveau du quartier Via Silva, mais aussi de promotion de modes de construction écologique et traditionnels. Et c'est vraiment un lieu qui est important pour nous et pour l'association.
Donc ça c'est à partir de 16h le mercredi et jusqu'en soirée. Il y aura un goûter prévu et une buvette sur place. Il faut s'inscrire si on souhaite participer à cette formation sur l'action non violente. Ça me permet de rebondir, j'avais vu passer en conseil municipal, alors je ne sais plus de quand ça date, en s'appuyant sur le contrat d'engagement républicain, des remises en cause des subventions qui sont versées à Alternatiba en lien avec ce choix de la désobéissance civile, mais à travers des actions non violentes. violente. Je sais pas si vous souhaitez dire un mot là-dessus. Moi, ça m'avait assez alerté de voir, en l'occurrence, le groupe d'opposition Renaissance réclamer l'arrêt de subvention.
Tout à fait, tout à fait. On n'est pas les seuls, le seul groupe local à avoir cette question et cet enjeu autour du contrat d'engagement républicain, et même d'autres associations, clairement, avant nous, notamment des associations antiracistes qui ont eu des attaques bien plus fortes et depuis bien plus longtemps. Mais du coup, nous, par exemple, à Rennes, on a décidé de ne pas signer le contrat d'engagement républicain via la charte de la ville de Rennes, qui du coup le mentionne et qui, de fait, si on signe cette charte, fait qu'on accepte le contrat d'engagement républicain. Donc nous, par exemple, à Rennes, on ne peut plus bénéficier de subventions de la ville de Rennes. Et ça a été une interrogation pendant le Village des Possibles de l'année dernière. Mais nous, on assume ce choix comme étant un choix aussi de solidarité avec les autres associations qui ont déjà pu être dissous ou qui se sont vus refuser des subventions par rapport à ce contrat.
Et ça peut rendre difficile l'organisation du prochain Village des Possibles au mois de septembre, où ça veut dire repenser le financement de Stanford pour votre structure ?
Ça veut dire les deux, ça veut dire oui, potentiellement des plus grosses difficultés, que ce soit en termes de subventions, mais aussi en termes de réservation de l'espace public, parce que c'est aussi selon ce contrat. Mais nous, on pense que c'est des difficultés qu'on est prête à assumer par rapport à la nécessité justement de se mobiliser contre ce type d'attaque, contre les libertés associatives et contre la désobéissance civile.
Oumaima Elis Biani, je vous représente, vous êtes donc membre d'Alternativa ANV COP21 à Rennes qui accueille une étape du tour de l'association au niveau national. Ça se passe à la ferme de Quincé et à la ferme de la Grande Frinière, donc respectivement à Rennes et à Cesson-Sévigné les mardis 11 et mercredi 12 juin. Le détail est à retrouver en ligne sur le site rennes.alternativa.eu et également sur vos réseaux sociaux, vous êtes sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ghost Town, un morceau interprété par la fanfare rennaise des Zazou. C'est un groupe que vous retrouverez sur scène mardi 11 juin en soirée du côté de la ferme de Quincé à Rennes en compagnie d'Alternatiba qu'on vient d'avoir au micro pour annoncer ce tour d'Alternatiba qui passe par la région rennaise les 11 et 12 juin. Vous êtes dans l'arène, l'émission d'information locale de Canal B, un programme qui a quitté les réseaux sociaux pour retrouver du temps pour elle et se remettre à la lecture, entre autres. Donc, à présent, pour annoncer le programme de l'émission, eh bien, ça se passe avec une newsletter, une infolettre. Le courrier de l'arène, je l'envoie chaque vendredi aux auditeurs et auditrices qui y sont abonnés. Si vous souhaitez rejoindre le mouvement, rien de plus simple, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse lucie@canalb.fr et à partir de vendredi, vous recevrez un petit document avec la mise en lumière de reportages et d'interviews réalisées durant la semaine. L'émission d'information locale, elle continue maintenant avec l'épisode 2 d'une série de reportages réalisés par Corentin Petitclerc, volontaire en service civique. Avant de terminer son volontariat, il a exploré Rennes 2, La Rouge, une université hautement politique. Et dans le deuxième épisode que vous allez entendre, il se demande pourquoi les facs. Et tiens, aujourd'hui sur les réseaux sociaux de l'Union Pirate, un syndicat étudiant, on y retrouve ce slogan « La jeunesse emmerde toujours le Front National », des mots politiques et d'actualité avant un rassemblement qui est annoncé ce lundi 10 juin sur les coups de 18h, place de la mairie à Rennes. Allez, le reportage de Corentin, c'est maintenant.
Rennes 2, La Rouge, épisode 2, pourquoi les facs ? Un certain nombre d'universités sont réputées comme étant des facs militantes. On entend souvent que les étudiants peuvent avoir un rôle important lors de mobilisations sociales. L'université Rennes 2 fait partie de ces facs réputées comme étant particulièrement politisées à gauche. Mais qu'est-ce qui explique que les universités puissent être des lieux politiques ? Pourquoi certaines semblent être plus mobilisées que d'autres ? Les étudiants de Rennes 2 sont-ils particulièrement mobilisés par rapport à ceux d'autres facs ? Dans cet épisode, j'ai questionné Camille, Ninon et Théo pour essayer d'expliquer à quoi est due cette effervescence politique qu'il peut y avoir à Rennes 2.
Est-ce que la fac, elle est légitime à être un espace politique ?
Oui, elle est totalement légitime à être un espace politique. En fait, la fac en elle-même est lieu de politique, de par son administration qui elle-même est politique. Donc à ce moment-là, par exemple, si on prend le cas que la fac fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de politisation alors que l'administration elle-même est techniquement politique, ce serait un peu un paradoxe. Ce serait totalement un paradoxe. Mais...
Ouais, je pense que c'est une fac assez particulière parce que bon, déjà, le fait qu'on est en filière d'art, de sociologie, de littérature, qui sont des filières absolument déconsidérées par énormément de gens, que ce soit... Tous les étudiants en droit, en médecine, des fonctionnaires, des directeurs d'entreprise qui disent voilà que en fait ce qu'on veut faire ça ne sert à rien, c'est pas utile à la société. On nous répète que on va pas s'en sortir sur le marché du travail, que c'est bouché, et nanani nanana, que souvent en plus, bon là je parle un peu de mon expérience personnelle, mais beaucoup de gens qui vont à Rennes 2, pas tous évidemment, hein, mais c'est des gens qui viennent de milieux un peu alternatifs, qu'on grandit des fois en étant un peu dans la confrontation avec les autres, justement. Et du coup, t'arrives à la fac et là, ah, t'as des gens qui sont comme toi, qui aiment les mêmes choses que toi, l'art, la musique. Et finalement, tu n'es plus le hors-norme, entre guillemets, tu rentres un peu dans la norme. Et je pense que c'est un truc qui donne confiance à beaucoup de gens aussi, de se dire, ah, ok, il y a un lieu. Je pense que, ouais, c'est un truc un peu d'empowerment, entre guillemets, de te dire, ah bon, bah, cet espace-là, au moins, je suis tranquille. Si j'ai envie de porter des trucs, je peux le faire. Et je pense que du coup, c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi une complaisance des étudiants de manière générale vis-à-vis des mouvements sociaux à se dire bon. Du coup, j'ai l'impression que les gens, quand même, ils aiment la fac, ils passaient du temps parce que même avec tout ce qui a été mis en place par des élus étudiants ou des syndicats, en fait, depuis quelques temps, je trouve en plus, c'est devenu un endroit assez agréable où tu peux traîner, faire des trucs, aller voir des films au cinéma de la fac. Et du coup, bah, tu rencontres des gens, tu discutes. Et finalement, réussir à en dégager quelque chose et à se dire « Ah, mais moi, si je galère comme ça, peut-être que je devrais essayer comme ça et tout. » Et je pense que c'est là-dessus qu'est un peu la particularité de Rennes 2, c'est que ça a été fondé après un mouvement social comme université, où justement la philo et l'histoire étaient séparées parce qu'on disait que c'était les enfants terribles ensemble, donc ils ont mis la philo à Rennes 1, et le reste à Rennes 2, ils ont excentré à Villejean. Mais en fait, bah, globalement, je pense que les premières années, c'était des gens qui étaient un peu plutôt d'accord entre eux.
À un moment, il y a eu justement une impulsion forte de syndicats tels que l'Union Pirate ou les autres syndicats qu'il y a eu, je pense, des années 2000. Notamment dès la réforme des CPE 2006-2008. Et du coup, je pense à un truc qui a été assez entretenu et que les gens ont assimilé. Et donc, qui fait que bah, y a une convergence des luttes qui s'est créée sur l'université, sur le campus.
Pourquoi la fac ? Bah, parce que historiquement, les facs, elles ont quand même eu un assez grand rôle dans les mouvements sociaux. De ma vision à moi, pourquoi c'est dans les facs qu'il y a de l'agitation politique et pourquoi à Rennes 2 ? Déjà, Rennes 2, c'est une fac qui est plutôt tournée vers les sciences sociales, vers les langues, donc c'est une fac plutôt littéraire. Les gens qui vont dans les facs plutôt littéraires, déjà les gens qui vont en fac, c'est des gens qui sont issus de classes sociales où ils ont pu être aidés, donc c'est des personnes qui ont accès aux études, donc qui sont de la classe moyenne ou des classes populaires, mais c'est des classes qui sont politisées plutôt à gauche et donc qui vont avoir une facilité plutôt à intégrer les mouvements sociaux. La fac, c'est un lieu de production de connaissances. C'est un lieu de débat, c'est un lieu de discussion et d'ouverture sur le monde, et donc aussi de remise en question politique, des ordres établis. Les facs, ça regroupe des personnes qui sont très jeunes, qui ont beaucoup d'énergie, qui souhaitent à s'investir et qui juste ont plus de chances que, par exemple, une usine où les gens ont le dos cassé, où c'est très compliqué de pouvoir se mobiliser parce qu'il y a plein de choses qui sont en jeu. Là, les gens, ils sont jeunes, ils ont la possibilité, ils ont moins à perdre que s'ils étaient plus âgés, donc c'est normal qu'ils s'organisent de manière un peu plus virulente.
L'Union Pirate, le champ d'action, il est assez au quotidien, mais la façon d'agir, elle doit pas mal changer pendant un mouvement social, parce que l'Union Pirate va changer un peu de priorité, quoi.
Pour moi, t'as une continuité dans la question des mouvements sociaux en général, c'est-à-dire t'as des pics et des baisses, mais à côté de ça, donc quand on a une hausse d'un certain mouvement, par exemple, si je prends un exemple concret, quand il y a eu la réforme des retraites, certes, on s'est énormément piqué dans cette question de réforme des retraites, mais à côté, c'est pas pour autant qu'on a délaissé la question de la précarité étudiante avec les angles des distributions alimentaires. Justement, je pense que quand il y a une hausse d'un mouvement social, peut-être la réforme des retraites ou tout autre mouvement social, je pense que cette ligne qu'on tient de base, limite, elle se hausse encore un peu plus haut. Et du coup, en fait, elle est à une hauteur et quand on la remonte un peu, bah, en fait, elle va pas redescendre après le mouvement social, je pense.
J'ai l'impression que quand on parle de politique sur une fac, la réponse facile, c'est de penser à des blocages, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui se font ?
En fait, c'est ça, même à Rennes 2, on entend souvent, ou même moi, ça a été un peu le cas, hein, quand je suis arrivé, avant que j'arrive à Rennes 2, tu vas pas travailler, mais tu sais, ça va être sous blanc bloqué, etc., etc. Ce qui est d'une, déjà, est faux, genre, on peut regarder cette année, on a eu un blocage de même pas une semaine en soi. De toute façon, le blocage, c'est une stratégie assez particulière, que d'ailleurs, à l'Union Pirate, on n'utilise plus trop. Nous, on est présents sur la fac H24. Que ce soit par visuellement, ce qui est, c'est une force d'ailleurs de l'Empire, mais la visibilité, que ce soit humaine ou informelle, fait que d'office ça fait un lieu de politisation. Et après, à côté de ça, dès que tu fais en fait une activité, que ce soit des distributions périodiques, des soupirs alimentaires, une table ronde, etc., une conférence, enfin dès que tu fais un truc, de toute façon ça va être un moment de politisation. Donc, autre que le blocage, il y a, on va dire, une infinie possibilité de moyens de politisation outre ce moyen-là, quoi.
La fac, ça reste un endroit qui est privilégié pour faire des formations, pour faire des moments de débat, de composantes qui ne sont pas issues de la fac. Je pense aux partis et aux collectifs qui viennent sur la fac pour profiter des salles qui sont ouvertes, parce que c'est un endroit du coup qui est ouvert un peu à tous. Ce qui se passe de politique, c'est la présence de syndicats, la présence d'organisations, c'est les revendications de l'Union Pirate. Ce qui se passe de politique, c'est les distributions alimentaires.
Un groupe autonome, c'est pas forcément un groupe étudiant, enfin c'est un groupe qui est plutôt ouvert à tout style de personnes. Comment t'expliques leur présence du coup sur les campus ou en tout cas sur celui de Rennes 2 ?
Je sais que moi par exemple quand je suis arrivée à la fac, c'est ce que je disais, j'en ai vu très peu et en fait c'est parce qu'ils fuyaient l'université. Ils trouvaient que l'université était complètement dépolitisée et que finalement ça ne servait à rien en fait d'aller parler avec les étudiants parce qu'ils sont tapés de toute façon. Mais je pense qu'en fait, à l'université, ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir une force de mobilisation avec beaucoup de gens qui peuvent venir écouter ce que tu dis, exprimer s'ils sont pas d'accord, et pouvoir créer un endroit où justement, bah en fait, les étudiants, c'est des galériens, ils ont besoin d'aide pour se défendre, peut-être que tu peux leur apporter leur aide ou pas parce que t'es un peu plus vieux, peut-être que eux, justement, ils vont alerter sur certains trucs qui se passent et qui sont pas bien du tout et qui vont juste encore créer encore plus d'inégalités, et du coup, réussir à faire de la cohésion sociale, finalement, pour moi, c'est ça... que je trouve important quand les autonomes font le choix de venir à la fac. En fait, c'est un truc un peu d'ouverture aussi, de se dire, bon, voilà, on accepte aussi d'être remis en cause. Certaines personnes, c'est des gens qui sont allés à la fac, qui n'y vont plus, mais qui gardent sûrement de l'affection parce que ça a été un peu leur endroit de l'éveil politique où justement il y avait un foisonnement de groupes différents. Parce que, en fait, l'université, finalement, est un endroit qui reste ouvert, qui n'est pas ouvert à la police ou au cas de vent, comme ça peut être le cas de l'espace public. Et un endroit où les gens se posent quand même pas mal de questions sur ce qui se passe, parce que c'est des jeunes adultes et tout. C'est un endroit où, du coup, il peut y avoir une espèce de jonction entre différents... que ce soit les étudiants, mais par exemple aussi avec le personnel de la fac, se poser des questions sur le chômage, parce que généralement tu vas à la fac pour te dire bah, « je vais trouver un travail », mais bon, ça se passe pas toujours comme ça, évidemment. Pour moi, c'est un lieu qui permet justement cette rencontre-là, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens, finalement, de différents groupes, même s'ils ne sont plus étudiants, hein, je pense qu'ils viennent souvent pour rester à la page, je pense aussi.
La fac, il y a l'accès au métro, qui est simple, c'est pas très loin du centre-ville. C'est très grand comme endroit. Il y a plein de bâtiments, il y a plein de salles, plein d'amphithéâtres qui ne sont pas forcément utilisés. Du coup, c'est un lieu où on peut entrer et sortir un peu comme on veut. C'est quand même vachement pratique de pouvoir aller à cet endroit-là sans avoir à... Théoriquement, on est censé réserver les salles et tout. Mais on peut le faire un peu n'importe comment. Et c'est plus pratique que de devoir demander des salles à la mairie ou ce genre de choses. Je sais qu'il y a le bâtiment à modeler, qui est un bâtiment qui sert pour accueillir aussi des événements, notamment culturels, qui est aussi utilisé pour des événements politiques. Mais c'est un peu plus compliqué de s'y organiser parce que ça reste un endroit qui est beaucoup plus petit. Il faut réserver. Il y a les ombres électriques aussi qui existent, qui est pour le coup plus accessible, je trouve, parce que... Bah, encore une fois, c'est les personnes qui s'occupent de ce lieu, sont en charge de ce lieu. C'est des personnes du milieu militant, du coup c'est des personnes qui sont assez accessibles quand toi, une fois, tu es dans le milieu militant. Et du coup, on peut avoir accès assez facilement à cet endroit-là, mais il pourrait pas s'y passer autant de choses qu'il ne s'en passe à la fac, ne serait-ce que par contrainte genre de mètre carré, quoi. Genre, il pourrait pas y avoir 8 réunions en même temps, comme ça peut être le cas à Rennes 2, par exemple.
Est-ce que tu penses que il y a une plus grosse part d'étudiants mobilisés à Rennes 2 qu'ailleurs ?
Je pense oui. T'as toujours l'enjeu de la précarité de toute façon. Je pense que tes étudiants, ils arrivent, ils sont pas vraiment politisés. Même en fait, je pense quand t'as un mouvement social à X ou Y temps, souvent l'année d'après, les lycéens qui arrivent sont un peu plus politisés que toi que tu l'étais. Ça dépend réellement, je pense, des années. Ça dépend aussi des mouvements sociaux en fait qui se sont enchaînés, etc. ou pas. Le fait que l'administration soit plus ouverte ou pas à ce qu'il y a des syndicats ou pas, ou en tout cas la communication entre les syndicats et l'administration fait que ça va être plus facile ou moins facile d'avoir un lieu de politisation. Mais non, à Rennes 2, justement, on a cette liberté d'avoir un campus assez ouvert là-dessus. Donc je pense que c'est surtout ça qui fait la question de la politisation, mais aussi le fait d'avoir des étudiants qui sont engagés justement pour permettre une politisation des autres étudiants.
Je pense qu'il y a une part de légende quand même, hein. Genre... Rennes 2 à la Rouge, ça a une image, et du coup on s'en fait une idée. C'est comme Tolbiac. Moi j'ai jamais foutu les pieds à Tolbiac, pourtant j'ai l'impression que c'est une ZAD, quoi. Je pense que du coup il y a pas mal ça.
Je sais pas s'il y a une plus grosse proportion d'étudiants mobilisés, enfin si, sur certains points je pense quand même, mais c'est un truc dans la durée aussi que certaines facs arrivent pas à faire, parce que finalement je pense que les gens, vu qu'ils apprécient la fac, bah, ils y restent plus longtemps que peut-être dans d'autres universités de sciences sociales où les gens partent au bout de 2 ans. Du coup bah, il y a un truc un peu qui s'installe de bah, en fait c'est l'endroit où je passe du temps, que j'affectionne, donc bah oui, je vais m'en servir, le défendre, faire d'autres choses et tout. Je trouve aussi, c'est sur la réactivité, sur certaines questions. Rennes 2, je pense, est plus réactive que d'autres facs. Par exemple, voilà, quand il y a l'ébauche d'une loi liberticide et tout, bah forcément, il va y avoir une assemblée générale, les gens vont se poser la question de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour mobiliser les autres facs. Ça, c'est des choses que j'ai déjà entendues. Et c'est une université qui a pas de sous aussi, donc les gens, ils ont conscience que c'est pas voilà, des bâtiments de fous, des conditions géniales pour étudier, mais d'un autre côté, ils en veulent pas aux personnes. personnel parce qu'ils savent bien qu'ils sont pas responsables, et je pense que du coup ouais, ça crée un peu un truc de solidarité, de se dire bon, on essaye de faire en sorte que ce soit moins pire pour tout le monde, quoi.
Est-ce que tu penses que tu te serais politisé différemment ou politisé moins si t'étais pas passé par 22?
C'est sûr. Ouais, je pense beaucoup moins. Enfin, moi, j'avais pas vraiment conscience que les groupes autonomes existaient, par exemple. Donc, je pense que j'aurais été dans un syndicat, j'aurais peut-être fait des trucs de conférences, de machin, l'étape de presse, mais finalement, j'aurais rien fait de plus effectif. Je serais allé en manifestation, un truc comme ça, mais je pense pas que, par exemple, je me serais retrouvé à me lever à 5h du matin pour aller filer un coup de main au routier en me disant bah, c'est pas grave, c'est bien, il faut le faire. Pour un blocage de rond-point, pour aider des lycéens et mettre la pression à leurs proviseurs qui essayaient de leur faire des menaces à l'exclusion alors qu'ils en avaient absolument pas le droit juste parce que c'était des militants. Je pense que j'aurais pas rencontré aussi toute la palette de gens très différents, justement, de militants, de pratiques militantes. Enfin, je pense que ça aurait été quand même assez différent parce que Rennes 2, il y a un truc quand même un peu, je trouve en tout cas dans le milieu militant, de composition où il y a encore un peu des efforts qui sont faits. De même que la présidence ou les services administratifs sont pas ultra complaisants, je dirais, mais essayent de faire le moins de vagues possible. Donc du coup, forcément, ça laisse un truc de liberté. Je pense qu'également, si j'avais été dans une autre fac, bah, j'aurais pas créé l'armée de Dumbledore, donc peut-être j'aurais pas siégé dans les conseils. Je me serais pas confronté autant avec des figures de pouvoir de l'université. J'aurais pas essayé d'en apprendre autant sur l'administratif.
Du coup, ça veut dire pour toi, genre, Rennes 2 est un peu différente des autres facs d'un point de vue politique?
Ouais, je trouve, ouais, parce que pour le coup, pendant les mouvements sociaux, j'ai été représentatrice de Rennes 2 à des coordinations nationales étudiantes. Donc en fait, on était tous censés raconter un peu qu'est-ce qu'on avait fait pour faire vivre le mouvement social, comment ça se passait dans notre université. Et en fait, on était un peu la seule fac où c'était vraiment des gens jeunes qui avaient été désignés comme pour aller à ce truc-là, représenter des trucs. Parce que les autres, finalement, bah, ils se connaissaient tous, ça faisait longtemps qu'ils étaient militants. Il y avait des querelles qui ressortaient... qui avait pas vraiment lieu d'être, il y avait des fois aussi peut-être un peu de condescendance parfois sur le fait que « Ah, mais vous venez pas de tel ou tel syndicat, machin, nanana. » Et je trouve qu'à Rennes 2, il n'y a jamais trop eu ça. Au contraire, c'était une source de grande joie que beaucoup de gens veulent faire des trucs, quoi.
Est-ce que pour toi, ces milieux, comité de mobilisation, assemblée générale de Rennes 2, c'est des choses qui sont réservées aux étudiants?
Non, pas du tout. Le choix, c'est de s'organiser sur la fac, mais c'est pas des AG qui sont étudiantes, c'est des AG avec les étudiants et étudiantes et avec les personnes qui souhaitent s'investir politiquement. Si on ferme les espaces d'organisation, ça va forcément exclure des personnes, genre de fait, parce qu'il y a des personnes qui font du travail précaire. Genre quand je travaillais par exemple en restauration rapide, il n'y avait pas de possibilité pour moi de m'organiser politiquement dans mon travail. Et si je n'avais pas envie de rejoindre des partis politiques, bah, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et ce genre de personnes, souvent jeunes, c'est plus simple de venir à des assemblées générales où c'est des milieux qui sont ouverts, plutôt que de devoir rentrer directement dans des parties qui ne nous correspondent pas forcément.
Est-ce que tu penses qu'il y a une forme de transmission un peu de culture militante? 22, c'est une fac qui a une image très mobilisée depuis un moment. Et est-ce que du coup, ça pourrait pas jouer aussi, ça?
Je pense qu'effectivement, ça y joue un peu. À partir du moment où t'es dedans, entre guillemets, en plus, bah, y a toujours des militants plus vieux qui vont te raconter plein d'histoires sur des histoires qu'ils ont vécues il y a 5 ans, au mouvement social d'il y a 5 ans, de tel truc avec tel prof, de tel truc avec tel vigile, de « Ah, mais ils avaient occupé tel endroit de la fac » et tout. Et du coup, c'est des histoires qui continuent à vivre. Je trouve que quand même, les gens à la Rennes 2 militants ont pas mal d'humour, finalement, et que c'est ça, surtout, qui se transmet. Et c'est ça qui plaît aux gens. Je pense qu'il y a une transmission, au moins orale en tout cas, de petits faits d'armes, d'événements un peu qui sortent de l'ordinaire ou qui sont justement très drôles et qui sont amplifiés, répétés, que les gens aiment bien se rappeler en se disant « Ah, c'était pas mal quand même » et tout. Et du coup, je pense que ça crée aussi, ouais, c'est ça, une culture de cohésion. En 2016, par exemple, j'ai un ami qui, lui, avec deux autres personnes, en fait, s'amusait à écrire des chants sur la mobilisation. Et c'était des trucs très spécifiques. Mais ça n'empêche qu'en manif, bah, tout le monde les reprenait parce qu'en fait, les gens s'étaient appropriés un peu toutes les histoires qu'il y avait eu. Il y avait une chanson sur Gérard Gaucher qui était un policier qui avait jeté une grenade et la grenade, il l'avait mal jetée, avait fait une double fracture au doigt. Il y avait une chanson justement avec vraiment une histoire en plus dans les couplets qui faisait référence à des manifestations qui se sont passées pendant le mouvement en question. Et en fait, oui, bah, tout le monde les chantait. Je pense que du coup, cette espèce de sentiment de commun, finalement, ouais, se transmet justement par les histoires orales que tu racontes, les moments conviviaux qu'il peut y avoir. C'est des trucs, finalement, où j'ai l'impression que ça se rapproche d'une sensation de l'avoir vécu, même si tu l'as pas vécu. Et du coup, ouais, tu reprends un peu ces codes-là. Je veux dire, vive la commune en haut de la fac. Tout le monde est très content quand il sort, quand il est là, même si des fois tu te dis est-ce que ça a encore du sens au final. Bah oui, finalement ça a du sens parce que bah, les gens sont contents de voir ça, c'est un truc réconfortant de se dire ah, ok, c'est toujours possible. Mais voilà, c'est un truc, bah, par exemple, les gens ne savent pas forcément les histoires qu'il peut y avoir derrière Vive la Commune parce que c'est une histoire très complexe. Mais les gens savent, se disent ah oui, ça c'est un truc qui est fait à chaque mouvement social à Rennes 2, c'est cool.
c'est clair qu'ils méritent un peu mieux, nos enfants. C'était Nerlove avec le titre « Quel dommage » sur Canal B. Ça marche plutôt pas mal avec l'ambiance du jour et c'était une nouveauté musicale repérée par Yann, notre programmateur ici à la radio. Un titre à retrouver sur un album, pas si grave. C'est sorti le 17 mai, 12 titres qui forment donc le premier album pour ce musicien angevin qui sera sur scène du côté d'Angers vendredi prochain sous forme de release party pour célébrer la sortie de cet album. Vous venez d'en entendre un extrait dans L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, une émission qui tente malgré tout de rester réflexive et combative, à écouter sur le 94.0 mais aussi sur canalb.fr. Avant de se quitter quand même, la recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des petits conseils d'événements à vivre dans la région rennaise, parfois aussi des recommandations lecture, podcast ou documentaire. Deux choses à annoncer aujourd'hui. Ce lundi 10 juin, un rassemblement est annoncé donc à partir de 18h sur la place de la mairie à Rennes. On imagine que c'est le premier d'une série avant les prochaines élections législatives qui vont vite arriver. Et l'idée, c'est de permettre aux citoyens de se réunir face au risque que le Rassemblement national gouverne. Au menu de ce rassemblement, discussion, réaction et organisation. Et ces élections, elles vont amener à la formation d'une nouvelle assemblée et d'un nouveau gouvernement d'ici le début du mois de juillet. Tout ça à la veille des Jeux Olympiques. Et ça, c'est le sujet de la deuxième recommandation. Direction le bar Désordre à Rennes, mardi 11 juin sur les coups de 19h, où vous retrouverez les amis du monde diplo de Rennes pour un café-débat sur les Jeux sans joie. C'est en lien avec un dossier qui est paru dans le monde diplomatique du mois de mai. Et sur place, on retrouvera Hugo Bourbillière, qui est maître de conférence en STAPS à l'université Rennes 2 et chargé de mission dans cette même université Sport et JO 2024. L'Arène, c'est terminé. Une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.